Chapitre 3. Six adultes et un bébé au milieu d'un paysage hostile. Les flammes dansantes de leur foyer semblent bien peu de choses contre l'obscurité qui tombe. Au-dessus d'eux et devant eux, les collines environnantes se dressent comme des murailles, tandis que plus près, plongées dans les ténèbres de la vallée elle-même, les formes massives des tombeaux du temps semblent se rapprocher lentement, au ras du sol, telles des apparitions dinosauriennes surgies de quelque époque antédiluvienne. Brown Lamia est fatiguée, ses jambes lui font mal, et elle se sent irritable à l'extrême. Les pleurs du bébé de Weintraub lui mettent les nerfs à fleur de peau. Elle sait que les autres sont encore plus épuisés qu'elle. Personne n'a dormi plus de quelques heures au cours des trois dernières nuits. La journée qui s'achève a été pleine de tensions et de terreurs indéterminées. Elles jettent leur dernière bûche dans le feu.
« Il n'y en a plus dans la réserve !»
lance Martin Silenus. Les flammes du foyer éclairent par en dessous les traits de satire du poète.
« Je le sais, »
réplique Brown Lamia, trop lasse pour mettre de la colère ou toute autre forme d'énergie dans sa voix. Le bois sec provient d'une cache constituée par les groupes de voyageurs des années précédentes. Leurs trois petites tentes sont plantées dans la zone traditionnellement utilisée par les pèlerins la veille du jour où ils doivent affronter le Gritch. Elles sont tout près du tombeau appelé le Sphinx, et un pan noir qui pourrait être une aile voile une partie du ciel.
« Nous allumerons la lanterne quand nous n'aurons plus de bois », déclare le consul.
Le diplomate semble encore plus exténué que les autres. Les flammes dansantes jettent des reflets rouges sur les traits tristes de son visage. Il a revêtu ce matin son costume d'apparat, mais la cape et le tricorne sont tout aussi froissés et flétris en cette fin de journée que sa propre personne. Le colonel Cassad revient s'asseoir près du feu. Il relève sa visière de nuit contre le sommet de son casque. Il est vêtu de sa tenue de combat au grand complet, et le polymère caméléon activé ne laisse apercevoir que son visage, qui semble flotter à 2 mètres du sol.
« Je n'ai rien détecté, » dit-il. Pas le moindre mouvement, pas la moindre trace thermique, pas le moindre bruit en dehors du vent.
Il dépose le fusil d'assaut polyvalent de la force contre un rocher et vient s'asseoir parmi les autres. Les fibres de son armure d'impact désactivées sont d'un noir mat guère plus visible que précédemment.
« Vous croyez que le Gritch viendra cette nuit ?»
demande le père Hoyt. Le prêtre s'est drapé de sa cape noire et semble faire partie de la nuit autant que le colonel Cassad. Sa voix est au bord de l'épuisement. Tout en se penchant sur le feu pour remuer les braises avec un bâton, Cassad répond.
« C'est difficile à dire. Mais je monterai la garde pour plus de sécurité. »
Soudain, les 6 pèlerins lèvent la tête tandis que le ciel étoilé s'embrase de fleurs rouges et orangées qui déploient silencieusement leurs corolles, occultant les astres.
« Le répit n'aura duré que quelques heures, »
murmure Sol Weintraub tout en continuant de bercer son bébé. Rachel a cessé de pleurer. Elle essaie d'agripper la courte barbe de son père. Ce dernier embrasse les petites mains potelées.
« Il cherche encore à tester les défenses hégémoniennes, » explique Cassad.
Une gerbe d'étincelles surgit du feu attisé. Des escarboucles volent dans le ciel, comme si elles cherchaient à rejoindre le grand embrasement.
« Qui gagne ?»
demande Lamia. Elle faisait allusion à la grande bataille spatiale silencieuse qui avait fait rage dans le ciel toute la nuit précédente et une partie de la journée.
« Qu'est-ce qu'on en a à foutre ?»
rétorque Martin Silenus en fouillant nerveusement dans les poches de son manteau de fourrure, comme s'il espérait y trouver une dernière bouteille oubliée.
« Qu'est-ce qu'on peut bien en avoir à foutre ?»
répète-t-il, bredouille.
« Moi, ça m'intéresse. » fait le consul d'une voix lasse. Si les extros réussissent à passer, ils risquent de détruire Hyperion avant que nous n'ayons trouvé le Gritch.
Silenus éclate d'un rire dérisoire.
Quelle chose terrible ce serait pour nous, n'est-ce pas? Mourir avant d'avoir trouvé la mort, être tué avant l'heure fixée par lui, s'en aller rapidement, sans douleur, au lieu de nous tordre pour l'éternité empalés sur les épines du Gritch. « Quel malheur pour nous si une chose pareille se produisait !»«
La ferme !»
lui dit Brown Lamia d'une voix toujours sans émotion, mais où perce, cette fois-ci, une légère menace.
Où est le Gritch ?
Ajoute-t-elle en se tournant vers le consul.
Pourquoi ne s'est-il pas encore manifesté ?
Le diplomate ne quitte pas les braises du regard.
Je n'en sais rien,
dit-il. Je n'en sais pas plus que vous.
Il n'est peut-être plus là ?
Murmure le père Hoyt.
En annulant les champs anthropiques, vous l'avez peut-être libéré à jamais. Il est peut-être parti infliger son fléau ailleurs.
Le consul secoue la tête sans rien dire. Non, déclare Sol Weintraub, dont le bébé est endormi contre son épaule. Il sera au rendez-vous.
Je le sens. Moi aussi, je le sens.
Approuve Brown Lamia en hochant la tête.
Il est ici, je le sais. Il nous attend.
Elle a sorti quelques rations de son paquetage. Elle retire les languettes auto-chauffantes et fait passer les boîtes à tout le monde.
« Je sais bien que la déception est ce qui fait marcher le monde, »
déclare Silenus.
« Mais c'est trop ridicule. Nous sommes tous habillés comme pour notre propre enterrement et nous n'avons pas un putain d'endroit où mourir. »
Brown Lamia le foudroie du regard, mais ne dit rien. Il mange quelque temps en silence. Les flammes s'estompent dans le ciel et les étoiles reviennent plus denses que jamais. Mais les escarboucles continuent de monter comme si elles cherchaient à s'échapper. Enveloppé au second degré dans le tourbillon brumeux des pensées de Brown Lamia, je m'efforce de récapituler les événements qui se sont produits depuis la dernière fois que j'ai rêvé leur existence. Les pèlerins étaient descendus en chantant dans la vallée bien avant l'aube. Leurs ombres se profilaient devant eux à la faveur des lumières d'un combat spatial qui se déroulait à 1 milliard de kilomètres au-dessus de leur tête. Toute cette journée-là, ils avaient exploré les tombeaux du temps. Ils s'attendaient à mourir d'une minute à l'autre. Au bout de quelques heures, lorsque le soleil s'était élevé au-dessus de l'horizon et que le froid mordant du désert la nuit avait fait place à une chaleur torride, leurs craintes et leurs exultations s'étaient estompées. La journée avait été longue et silencieuse, à l'exception des crissements du sable, de quelques éclats de voix occasionnels, et du gémissement constant, presque subliminal, du vent sur les rochers et autour des tombeaux. Cassad et le consul avaient, chacun de son côté, apporté un instrument destiné à mesurer l'intensité des champs anentropiques. Mais c'était Lamia qui avait fait remarquer la première qu'il n'avait pas besoin de ces appareils. Le flux et le reflux des marées du temps étaient parfaitement perceptibles sous la forme d'une légère nausée accompagnée d'un sentiment persistant de déjà-vu. Le plus près de l'entrée de la vallée était le sphinx. Venait ensuite le tombeau de jade, dont les parois étaient translucides uniquement à la lumière de l'aube et à celle du crépuscule. Puis, moins de 100 mètres plus loin, se dressait le tombeau appelé l'obélisque. Le chemin des pèlerins grimpait le long de l'arroyo de plus en plus large, vers le plus imposant de tous ces monuments, le monolithe de cristal, qui occupait une position centrale. Sa surface était entièrement lisse, sans ouverture visible. Son toit plat était au même niveau que le faîte des murailles rocheuses enserrant la vallée. Venaient ensuite les 3 caveaux, dont les entrées n'étaient visibles que parce que les sentiers conduisant jusqu'à elles étaient bien marqués. Enfin, près d'un kilomètre plus loin dans la vallée, se dressait l'édifice appelé le palais du Gritch, dont les embases et les flèches hérissées évoquaient les épines de la créature censée hanter cette vallée. Tout le jour durant, ils étaient allés de tombeau en tombeau, personne ne s'éloignant trop du groupe, attendant d'être tous ensemble pour pénétrer dans ceux des artefacts où l'on pouvait entrer. Sol Weintraub avait presque défailli d'émotion en s'avançant à l'intérieur du sphinx, ce même tombeau où sa fille Rachel avait contracté la maladie de Merlin 26 ans auparavant. L'appareillage installé par les chercheurs de son université était toujours là, sur des trépieds, devant l'entrée du tombeau. Personne dans le groupe de pèlerins n'était capable de dire si les instruments fonctionnaient encore ou s'ils continuaient de remplir leurs fonctions de surveillance. Les galeries du sphinx étaient aussi étroites et enchevêtrées que l'avaient suggéré les notes de Rachel dans son persoc. Les chapelets d'ampoules électriques et de globes bioluminescents abandonnés par les différentes équipes de travail étaient éteints, leurs accus déchargés. Le groupe utilisa des torches et la visière infrarouge de Cassad pour explorer les lieux. Ils ne découvrirent aucune trace de la chambre où s'était trouvée Rachel lorsque les parois avaient commencé à se refermer sur elle
et que sa maladie avait débuté. Il n'y avait plus que des vestiges des formidables effets des marées du temps. Et le Gritch n'avait laissé aucun indice de son passage. Chaque tombeau leur avait offert ces instants de terreur, d'espoir et d'anticipation angoissée, remplacés au bout d'un moment par une ou deux heures de morne attente dans des salles poussiéreuses et vides, comme celles que les touristes et les pèlerins Gritchtek visitaient depuis plusieurs siècles. Finalement, la journée s'était achevée dans la déception et la fatigue. Les ombres des murailles rocheuses bordant la vallée avaient recouvert les tombeaux tel un rideau de théâtre qui se referme sur une représentation sans succès. La chaleur du désert avait rapidement fait place au froid vif de la nuit, apporté par un vent qui sentait la neige et les hauts sommets de la chaîne Bridée, 20 km plus loin au sud-ouest. Kassad proposa d'établir un campement. Le consul leur avait montré les endroits où, traditionnellement, les pèlerins du Gritch se regroupaient pour passer leur dernière nuit avant de se retrouver face à face avec la créature qu'ils étaient venus chercher. Un terrain plat, à côté du sphinx, abritait encore quelques vestiges laissés par les pèlerins ou les équipes scientifiques. Sol Weintraub, qui se disait que sa fille avait peut-être campé ici, déclara que l'endroit était parfait. Personne n'éleva d'objection. Ils étaient maintenant dans une obscurité presque totale. Leur dernière bûche achevait de se consumer. Je les sentais plus proches que jamais les uns des autres, pas seulement pour se réchauffer, mais pour se réconforter, pour resserrer les cordons fragiles mais tangibles qu'ils avaient tissés en se racontant leurs expériences durant le voyage fluvial à bord de la barque de lévitation Bénarès et la traversée des montagnes en téléphérique jusqu'à la forteresse de Chronos. Mieux encore, je les sentais unis par quelque chose de plus palpable que de simples sentiments. Et il me fallut un moment pour me rendre compte que le groupe formait une microsphère de données sensorielles et d'informations partagées. Sur une planète où les relais primitifs de données locales avaient été réduits en poussière par les toutes premières manifestations de la guerre, ils s'étaient arrangés pour mettre en commun leurs biomoniteurs et leurs persoc, de manière à partager les informations et à veiller les uns sur les autres du mieux qu'ils pouvaient. Bien que les barrières qu'ils avaient érigées à l'entrée fussent visibles et concrètes, je n'eus aucun mal à me glisser dessous, autour et par-dessus, saisissant au passage le plus grand nombre possible d'indices directs tels que le pouls, la température épidermique, les ondes corticales, les demandes d'accès ou les répertoires de données, qui me donnaient une idée de ce que chaque pèlerin pensait, ressentait ou faisait. Kassad, Hoyt et Lamia étaient munis d'un plan. Leurs flots de pensée étaient les plus faciles à suivre. En cet instant, Braun Lamia se demandait s'il n'avait pas commis une erreur en venant trouver le Gritch dans son repère. Quelque chose la tracassait juste sous la surface, mais demandait impérieusement à se faire entendre. Elle avait l'impression de passer à côté d'un indice terriblement important, susceptible de lui fournir la solution. Mais de quoi ? Braun Lamia avait toujours méprisé les mystères. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle avait renoncé à une vie de confort et de loisirs en devenant détective. Mais où était le mystère? Elle avait presque résolu l'affaire de l'assassinat de son client Cybride et amant. Elle était venue sur Hyperion pour satisfaire le dernier vœu qu'il avait formulé. Et pourtant, elle sentait que la petite chose irritante qui lui échappait avait peu de rapport avec le Gritch. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Elle secoua la tête et s'efforça de raviver les braises qui mouraient. Elle était physiquement très résistante. Son organisme, qui était né et avait grandi sous la gravité standard de 1,3 G de l'usus, avait été entraîné pour faire preuve d'une endurance particulière. Mais elle n'avait pas dormi depuis plusieurs jours et elle se sentait exténuée. Elle prit vaguement conscience des paroles que quelqu'un était en train de prononcer près d'elle.
« Juste prendre une douche et manger un peu !»
murmure Martin Silenus.
« Vous pourriez utiliser votre unité COM et votre liaison Mégatrans pour savoir qui est en train de gagner la guerre !»
Le consul secoue négativement la tête.
« Pas encore. Je réserve le vaisseau pour un cas d'urgence. »
Silenus fait un large geste qui englobe la nuit, le sphinx et le vent qui se lève.
« Vous trouvez que ce n'est pas un cas d'urgence ?»
Braun Lamia comprend qu'ils sont en train de discuter de l'éventualité de faire venir ici le vaisseau du consul, resté à Kitz.
Vous êtes sûr que ce n'est pas le manque d'alcool que vous appelez un cas d'urgence ? Demande-t-elle.
Il lui lance un regard noir.
Quel mal y aurait-il à prendre un verre ou deux ?
Aucun,
fait le consul en se frottant les paupières. Lamia se rappelle qu'il est également porté sur la boisson. Mais il a quand même refusé de faire venir son vaisseau.
Et le Mégatrans ?
Demande alors Cassade. Le consul hoche la tête. Il sort l'antique Persoc de son étui. L'instrument a appartenu à sa grand-mère Syrie et aux grands-parents de celle-ci avant elle. Le consul pose un doigt sur le disque.
« Je peux émettre avec ça, mais pas recevoir, » dit-il.
Sol Weintraub a posé son bébé endormi à l'entrée de la tente la plus proche. Il se tourne vers le foyer.
« La dernière fois que vous avez transmis un message, c'est lorsque nous sommes arrivés à la forteresse ?»
demande-t-il.
« Oui. Et nous sommes censés croire ça ?»
intervint Martin Silenus d'une voix sarcastique.
« De la bouche d'un traître avéré. »
« Oui, »
réplique le consul sur le ton de la lassitude la plus extrême. Le visage osseux de Cassade flotte dans les ténèbres. Son corps, ses jambes et ses bras révèlent à peine leur contour noir dans la nuit environnante.
« Et avec ça, vous pouvez faire venir ici votre vaisseau ?»
demande-t-il.
« Oui. »
Le père Hoyt se drape de plus près dans sa cape pour l'empêcher de battre au vent. Le sable crépite contre la laine et la toile des tentes.
« Vous n'avez pas peur que les autorités du port spatial ou la force ne le confisquent ou tentent de s'en servir ?»
demande-t-il au consul.
« Non, »
répond ce dernier en remuant à peine la tête comme s'il était trop épuisé pour la secouer vraiment.
« Notre code de sécurité émane de Gladstone en personne. De plus, le gouverneur général de cette planète est un ami. » Disons qu'il l'était.
Les autres avaient fait la connaissance du gouverneur récemment promu à leur arrivée au port spatial de Kitts. Brown Lamia avait jugé Theo Lane comme un homme catapulté au milieu d'événements trop importants pour ses capacités limitées.
« Le vent se lève »,
déclare Sol Weintraub en se tournant de manière à protéger le bébé du sable qui vole.
« Je me demande si Het Mastin est là-bas », ajoute-t-il. « Nous avons cherché partout »,
dit le père Hoyt. Sa voix est étouffée parce qu'il enfonce la tête dans les plis de sa cape.
« Excusez-moi, le prêtre !»
dit Silenus en riant.
« Mais votre opinion vaut de la merde !»
Il se lève pour s'avancer au bord du cercle de braise. Le vent fait ondoyer la fourrure épaisse de son manteau et emporte ses paroles dans la nuit noire.
« Ces falaises offrent 1000 cachettes !»
dit-il.
« Le monolithe de cristal ne nous laisse pas entrevoir son entrée. » Mais en est-il de même pour un templier ? En outre, vous avez tous vu l'escalier qui descend vers les labyrinthes dans les profondeurs du tombeau de Jade.
Hoyt lève la tête, plissant les yeux sous les piqûres d'épingles du vent de sable.
Vous croyez qu'il est là-dedans ? Dans les labyrinthes ?
Silenus éclate de rire et lève les bras. La soie de sa chemise aux manches amples bat au vent et se gonfle.
Comment pourrais-je le savoir, padré ? « Tout ce que je sais, moi, c'est que ce putain de Het Mastin pourrait très bien être là, à nous épier, en attendant de venir reprendre ses bagages. »
Le poète fait un geste en direction du cube de Mobius, au milieu de leur matériel réuni en un petit tas.
« Si ça se trouve, »
ajoute-t-il d'une voix théâtrale,
« il est déjà mort. Ou pi. »«
Pi ?»
demande le père Hoyt. Les traits du prêtre semblent avoir encore vieilli depuis quelques heures. Ses yeux sont des miroirs de souffrance enfoncés dans leurs orbites, son sourire un rictus. Martin Silenus se rapproche du feu presque éteint et il murmure.
« Bien pis. Il est peut-être en ce moment en train de se tordre de douleur sur l'arbre d'acier du Gritch, où nous serons tous épinglés dans quelque... »
Brown Lamia se lève soudain pour attraper le poète par son plastron. Elle le soulève du sol, le secoue, puis le rabaisse jusqu'à ce que leur visage soit à la même hauteur.
« Encore un mot, » dit-elle, « et je vous montre ce que c'est que la douleur. Je ne vous tuerai pas, mais vous regretterez que je ne l'ai pas fait. »
Le poète arbore son sourire de satire. Lamia le laisse retomber à terre et lui tourne le dos.
Nous sommes tous fatigués, déclare Kassad. Reposez-vous. Je prends la garde.
Mes rêves de Lamia se mêlent aux rêves qu'elle fait dans son sommeil. Il n'est pas déplaisant de partager les rêves d'une femme, même si nous sommes séparés par un gouffre de temps et de culture bien plus large que n'importe quel fossé que l'on peut imaginer entre hommes et femmes. D'une manière étrangement symétrique, comme un miroir, elle rêvait de son amant mort, Johnny, avec son nez un peu trop petit et sa mâchoire un peu trop volontaire, ses cheveux trop longs qui frisaient par-dessus son col, et ses yeux un peu trop expressifs et trop révélateurs, ses yeux trop mobiles dans un visage qui aurait pu, sans eux, appartenir à n'importe quel paysan entre mille, né à moins d'une journée de marche de Londres. Le visage qu'elle voyait en rêve était le mien. La voix qu'elle entendait était la mienne. Mais les ébats amoureux qu'elle rêvait, ou qu'elle se rappelait, n'étaient pas une chose que nous avions en commun. Je cherchais maintenant à échapper à son rêve, ne fût-ce que pour me retrouver dans le mien. Si je devais vraiment jouer le rôle de voyeur, autant le faire dans ce tourbillon de souvenirs fabriqués qui servait de source à mes propres songes. Je n'avais cependant pas le droit de rêver mes rêves. Pas encore, du moins. Je suppose que l'on ne m'a fait naître et ressuscité sur mon lit de mort que pour rêver les rêves de mon lointain jumeau disparu. Résigné, je cessais de lutter pour me réveiller et replonger dans les songes. Brand Lamia s'arrache vivement au sommeil, écartée de son rêve plaisant par un bruit ou par un mouvement qu'elle a du mal à situer durant une longue seconde. Il fait nuit, on entend des sons non mécaniques, bien plus forts que la plupart de ceux auxquels son ruchet de Lusus l'a habituée. Elle est ivre de fatigue, elle sait qu'il n'y a pas bien longtemps qu'elle s'est endormie. Elle est toute seule dans un espace étroit, confiné, qui ressemble à un sac de couchage surdimensionné. Bien qu'ayant grandi sur un monde où qui dit espace confiné dit protection contre l'atmosphère corrosive, le vent et la vie animale, où beaucoup de gens souffrent d'agoraphobie dans les rares occasions où ils se trouvent à ciel ouvert et où très peu connaissent la claustrophobie, Brand Lamia réagit cependant en véritable claustrophobe. Elle gesticule pour faire entrer un peu d'oxygène dans ses poumons, elle repousse frénétiquement son rouleau de couchage et la toile de tente, pour échapper au cocon de fibroplaste qui l'emprisonne, elle rampe, elle se traîne sur les coudes et les avant-bras jusqu'à ce qu'elle sente le sable sous ses mains et le ciel au-dessus de sa tête. Ce n'est pas vraiment le ciel. Elle se rappelle et elle voit soudain où elle est. C'est du sable. Une tempête violente, tourbillonnante, de sable et de poussière lui pique le visage comme des têtes d'épingle. Le feu de camp est éteint et recouvert de sable. Les trois tentes sont à moitié ensevelies du côté où souffle le vent. Les toiles claquent comme des détonations dans la tempête. Des dunes nouvelles se sont formées autour du campement. Des sillons et des crêtes marquent les emplacements des tentes et du matériel. Il n'y a aucun mouvement autour des autres tentes. Celle qu'elle partageait avec le père Hoyt est à moitié affaissée, à moitié transformée en dune. Le père Hoyt. C'est son absence qui l'a réveillée, en fait. Même au milieu de son rêve, la respiration faible du prêtre et ses gémissements presque imperceptibles, tandis qu'il continuait de lutter contre la douleur, étaient présents. Mais ils ont cessé à un moment dans la demi-heure précédente. Probablement pas plus de quelques minutes avant qu'elle se réveille. Elle sait maintenant que même dans son rêve de Johnny, elle aperçut l'ombre d'un froissement, le reflet d'un glissement feutré distinct du crépitement du sable et du hurlement du vent. Lamia se redresse en s'abritant les yeux du vent de sable. Il fait nuit noire. Les étoiles sont occultées par les nuages et la tempête, mais un rayonnement faible, presque électrique, remplit l'atmosphère et se réfléchit sur la face des dunes et des rochers. Lamia comprend alors qu'il s'agit bien d'un phénomène électrique, que l'atmosphère est saturée d'une charge électrostatique qui hérisse et agite les boucles de ses cheveux comme les serpents sur la tête de Méduse. Un crépitement se propage le long des manches de sa tunique et flotte sur les tentes comme un feu Saint-Elme. Tandis que sa vision s'adapte, elle constate que les dunes mobiles émettent une lueur très pâle et que, à une quarantaine de mètres plus à l'est, le tombeau appelé Sphinx émet des crépitements et semble changer de forme au rythme d'une lente pulsation dans la nuit noire. Des ondes parcourent les appendices déployés que l'on considère généralement comme ses ailes. Brand Lamia regarde autour d'elle à la recherche du père Hoyt, mais elle ne le voit nulle part. Elle a envie d'appeler à l'aide, consciente du fait que personne ne l'entendra dans la tempête. Elle se demande un instant si le prêtre ne s'est pas réfugié sous une autre tente, ou s'il n'est pas dans les latrines sommaires à 20 mètres de là vers l'ouest. Mais quelque chose lui dit que ce n'est pas le cas. Elle observe attentivement le sphinx et, l'espace d'une brève seconde, a l'impression d'apercevoir une silhouette humaine dont la cape noire claque comme un étendard qui tombe, les épaules enfoncées pour résister au vent, qui se dessine contre le halo statique du tombeau. Une main se pose sur son épaule. Brown Lamia fait un bond de côté, se baisse en posture de combat, le poing gauche en avant, la main droite raide. Mais elle reconnaît Kassad. Le colonel fait une fois et demie sa taille en hauteur et la moitié en largeur. Les éclairs miniatures découpent sa silhouette maigre, tandis qu'il se penche pour hurler à son oreille
« Il est parti par là !»
Le long bras noir d'épouvantail se tend en direction du sphinx. Lamia hoche la tête. Elle hurle à son tour d'une voix qu'elle n'entend presque pas elle-même.
« Est-ce qu'il faut réveiller les autres ?»
Elle avait complètement oublié que Fedman Kassad montait la garde. Cet homme ne dort donc jamais. Il secoue négativement la tête. Sa visière est relevée et le casque déstructuré forme une capuche souple dans le dos de sa combinaison armure de combat. Son visage est d'une pâleur extrême à la lueur de l'armure. Il indique de nouveau la direction du sphinx. Son fusil d'assaut polyvalent repose au creux de son bras gauche. Des grenades, l'étui de ses jumelles et d'autres objets plus mystérieux sont maintenus par des supports ou des sangles élastiques contre son armure d'impact. Lamia se penche vers lui pour crier.
« C'est le Gritch qui l'a emporté !»
De nouveau, il secoue la tête.
« Vous avez pu le voir ?»
demande-t-elle en désignant sa visière infrarouge et ses jumelles.
« Non !»
lui répond Kassad.
« La tempête ! Elle détraque les signatures thermiques !»
Brown Lamia se tourne pour ne plus avoir le vent dans la figure. Elle sent le sable qui lui pique la nuque comme les aiguilles d'un pistolet à fléchette. Elle interroge son père Sock, mais tout ce qu'elle apprend, c'est que le père Hoyt est vivant et qu'il se déplace. Aucune autre transmission ne se fait entendre sur la fréquence commune. Elle se rapproche de Kassad et leurs deux dos forment une muraille contre la tempête.
« Est-ce que nous allons le suivre ? »
crie-t-elle. Kassad secoue la tête.
« Nous ne pouvons pas laisser le camp sans surveillance !»
dit-il en tendant les bras vers la tempête.
« J'ai disposé des capteurs, mais... »
Elle regagne sa tente à quatre pattes, s'arc-boute sur ses bottes et ressort la tête avec à la main sa cape de gros temps et l'automatique de son père. Dans la poche intérieure de la cape se trouve une arme plus commune, un étourdisseur JR.
« J'y vais seul, alors !»
dit-elle. Tout d'abord, elle croit que le colonel ne l'a pas entendu. Puis elle voit une lueur dans ses yeux pâles et elle comprend qu'il a bien saisi. Il montre du doigt le père Sock militaire à son poignet. Lamia acquiesce d'un mouvement de tête et l'assure que son implant et son propre père Sock sont bien ouverts sur la plus large fréquence.
« Je ne serai pas très longue !»
dit-elle en commençant à escalader la dune de plus en plus haute. Les jambes de son pantalon luisent sous la charge d'électricité statique. Le sable, parcouru par des éclairs d'un blanc argenté qui font ressortir sa surface chamarrée, semble animé d'une pulsation vivante. À 20 mètres du camp, elle ne voit déjà plus rien. Encore 10 mètres et le sphinx surgit soudain devant elle. Aucune trace du père Hoyt. Les marques de pas ne survivent pas 10 secondes dans la tempête. L'entrée du sphinx est béante. Elle a toujours été ainsi depuis que l'homme a découvert ces lieux. Elle se présente sous la forme d'un rectangle noir inscrit dans une paroi légèrement lumineuse. La logique suggère que le père Hoyt est venu ici, ne serait-ce que pour se mettre à l'abri des éléments. Mais quelque chose qui transcende la logique indique à Lamia que la destination du prêtre n'est pas ici. Elle dépasse le sphinx, se repose quelques instants du vent en s'abritant derrière sa masse, et en profite pour essuyer le sable qui lui colle au visage et respirer plus librement. Elle poursuit son chemin, guidée par un sentier à peine visible qui s'éloigne au milieu des dunes. Devant elle, le tombeau de jade brille d'un vert laiteux dans la nuit. Ses courbes fines et ses arêtes luisent dans la nuit d'une manière menaçante. Plissant les paupières, Lamia croit apercevoir quelqu'un ou quelque chose dont la silhouette s'est découpée un bref instant à la faveur de la phosphorescence de jade. Mais la silhouette a vite disparu, soit à l'intérieur du tombeau, soit parce qu'elle est devenue invisible dans le demi-cercle noir de l'entrée. Lamia baisse la tête et continue d'avancer, poussé par le vent comme s'il cherchait à la guider de force vers quelque chose de terriblement urgent.